retour après quelques semaines d'absence sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, les podcasts qui sortent le jeudi. Je suis avec mon bon ami, mon collègue, mon partenaire de podcast les jeudis, Jonathan Léveillé. Jonathan, est-ce que tu t'es ennuyé de nos discussions?
Ben absolument, Antoine. J'avais hâte que tu sois de retour, hein, parce que tu étais à l'extérieur.
Joe, j'étais en détox digital. C'est ça que je suis allé faire. J'étais en détox digital dans le désert du Sahara pendant une semaine, la semaine dernière, où est-ce que j'ai eu la chance, pendant quelques jours, de donner des conférences, des ateliers, sans téléphone, sans ordinateur, sans Internet et même sans, littéralement, électricité. L'eau est un trésor dans le désert. Faut se battre pour aller en trouver, pour se laver, tout ça. C'est assez spécial. Puis c'est ça, j'ai passé une semaine là-bas, donné des ateliers, et ça m'a fait le plus grand bien du monde de ne pas avoir à regarder des Slack, des emails, des appels, des podcasts, peu importe de quoi on parle, de littéralement sortir de tout ça et de revenir à l'essentiel. Et peut-être une question pour toi avant qu'on puisse rentrer plus dans le vif du sujet, c'est quand, toi, la dernière fois que tu as fait une détox digitale?
Ah, c'est drôle comme question, Saint-Antoine, parce que ça m'était jamais arrivé jusqu'à l'été passé. J'avais jamais eu la chance de vraiment fermer le téléphone ou le digital autour à ce point-là, ou du moins de sortir du fameux réflexe de regarder son téléphone aux 5 minutes ou aux 30 minutes ou peu importe, là. Mais ça a été la première fois là, l'été passé, j'ai eu la chance d'aller faire un voyage en voilier pendant 3 semaines et demie de temps. Puis ça m'a littéralement fait comprendre et remarquer qu'on n'a pas besoin tout le temps de ces petites choses-là avec nous, hein, les téléphones, les courriels et tout le reste. Mais ça m'est arrivé pendant plusieurs jours de pas prendre mon téléphone, outre que pour mettre de la musique. Puis j'avais même plus ce réflexe-là à la fin là, d'aller voir mes messages, d'aller voir. Puis le pire, c'est que j'ai eu la chance pendant ces 3 semaines et demie-là d'être avec des gens que j'apprécie énormément, qui généralement les gens avec qui j'échange beaucoup ici au Québec. Fait que je me dis, ben j'ai tout le monde que j'ai de besoin autour de moi, outre mes parents, puis mon frère et compagnie, mais ben tout le monde qui m'écrirait, avec qui j'agirais, de toute façon, sont autour avec moi sur le voilier. Donc, première vraie détox complète digitale à pas stresser, puis à pas regarder le téléphone, puis surtout à se dire, j'ai aucune idée où est mon téléphone, puis j'irai pas le chercher, j'en ai pas de besoin.
Je sais pas ce qui se passe dans le monde. Je connais pas les mauvaises nouvelles qu'on se fait donner à tous les jours sur nos applications mobiles au niveau des différents médias qu'on connaît. Je regarde pas mes médias sociaux. C'est impressionnant à quel point que juste le faire est un exploit en soi maintenant. Juste le faire est un exploit en soi, c'est-à-dire de laisser le téléphone de côté, de laisser les emails de côté, de laisser Internet de côté. Y arriver, tu le dis, la première fois que ça t'est arrivé, une trentaine d'années, Jonathan. J'ai bientôt 30 ans également, moi, de mon côté. C'était la première fois depuis que je suis dans le monde des affaires, je pense, que je l'ai fait. Et je suis déjà en train de planifier ma prochaine détox, on pourrait dire ça comme ça. Donc, moi, juste le fait de me dire que c'est autant difficile, ça démontre à quel point on est rendu accro et dépendant de tout, de tous nos téléphones. Mais là, aujourd'hui, juste pour vous rassurer notre audience, notre but, c'est pas de faire un procès contre la société et un procès contre les téléphones cellulaires. C'est pas l'objectif, mais c'est surtout d'éveiller des consciences. C'est d'éveiller des consciences sur la beauté de laisser tout ça de côté, l'effet immédiat que ça va vous donner sur votre bien-être, sur votre santé mentale. Il est fait également subséquent. Tu vois, ça fait, je suis revenu vendredi dernier de cette retraite-là dans le désert. Je suis encore sur le momentum du désert. Je suis encore sur le momentum d'être dans un contexte où est-ce que je sens que j'ai pris un pas de recul. Je sens que j'ai été capable de voir les choses différemment. Et je me sens beaucoup plus énergisé. On a souvent ce qu'on peut atteindre en vacances, mais soyons honnêtes, souvent en vacances, on triche un peu, on va regarder les emails, on va donner un 30 minutes à nos équipes en fin de journée si on a vraiment besoin de nous parler. Bref, on triche dans cette approche-là pour des raisons très évidentes. Là, des fois, on a besoin d'être là, il y a des mandats importants, il y a des embauches importantes, bref, tout ce qu'on connaît dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais littéralement, de tout mettre de côté, je mets au défi des gens qui nous écoutent de le faire et de surtout planifier du temps. Parce que ça se planifie. On peut pas juste dire, on devient un fantôme pendant une semaine, puis je vous reparle une semaine plus tard. Ça ne fonctionne pas, on le sait très bien. Mais de planifier, de mettre du temps à son agenda pour le faire. Moi, je suis en train de replanifier ma prochaine retraite dans le désert. Et je vais peut-être t'amener, Joe. Je vais peut-être t'amener ce sujet.
Je serai entièrement ouvert, Antoine. Toute expérience hors du commun ou de la norme habituelle, je suis ouvert. Puis c'était une de mes questions aujourd'hui de comment ça s'était passé là-bas puis comment t'as aimé ça. Surtout, qu'est-ce qui t'a sorti le plus de ta zone de confort. Mais si jamais tu y retournes, I'm in, signe-moi sur l'aventure.
Bon, ben, faut là, tu le dis sur un podcast avec des millions de personnes qui l'écoutent. Donc, c'est dit, c'est signé sur le contrat parce que là, on est en train de regarder pour une prochaine retraite un petit peu plus, avec un petit peu moins de monde. Donc, clairement, je vais te mettre avec nous. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Pour donner un peu de contexte, puis je vais donner vraiment crédit où crédit revient ici. C'est un ami à moi que j'avais rencontré l'année dernière dans un autre événement un petit peu de la sorte à Champéry en Suisse, où est-ce que j'avais eu la chance également de donner des conférences là-bas. Il était présent dans l'auditoire pendant quelques jours. C'était un mastermind d'affaires, un petit peu comme on avait parlé récemment sur le podcast, Joe, où est-ce qu'on a fait ensemble en Arizona. C'était ici, ça s'est déroulé en Suisse. Il était présent, on a discuté ensemble et lui, il me dit, quand il se présente, il me demande ce que je fais. Je dis ce que je fais, c'est pas tellement impressionnant parce que je veux pas planifier mon fameux elevator pitch. Lui, je lui demande ce qu'il fait. Il me dit, ben moi, c'est pas compliqué, j'amène des entrepreneurs dans le désert. Quand il me dit ça, je suis un peu surpris, mais je suis surtout intrigué. Je suis surtout intrigué. Comment amènes-tu des entrepreneurs dans le désert? Où t'es venu l'idée, etc.? Puis Kim Benour, c'est son nom. Il a écrit un livre sur le sujet. C'est quelqu'un qui est un mentor en affaires pour des très, très grands chefs d'entreprise. Il a un parcours assez exceptionnel. Et c'est ce qu'il fait. Et pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Kim est venu sur le podcast Hypercroissance. Peut-être que vous avez écouté l'épisode. Mais Kim, c'est ce qu'il fait 4 fois par année avec ce qu'il appelle le ZDAM Évasion. Il amène des petits groupes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit des équipes sportives, peu importe, des petits groupes dans le désert pour une retraite. Et son slogan, c'est « avoir un rendez-vous avec soi-même ». C'est un slogan qui clairement fait du sens parce que c'est ce qui se déroule quand tu es tout seul dans le désert. Ça, il fait 4 fois par année, le ZDAM Évasion. Et ce que je viens de participer, l'événement que je viens tout juste de participer, Jonathan, ça se nomme le ZDAM Fest. Le ZDAM Fest, qu'est-ce que c'est? C'était la première édition d'un festival entrepreneurial dans le désert. Il y avait 80 personnes qui étaient là. Il y avait des conférenciers, des gens qui donnaient des ateliers. Où est-ce que pendant 2 jours, il y a eu 3 conférences par jour qui se sont données sur des thèmes entrepreneuriales. Moi, c'était là-dessus que j'ai discuté. Des gens qui étaient davantage au niveau mindset, des gens qui étaient davantage au niveau de la relation avec l'argent. Il y a eu également des discussions un petit peu plus personnelles sur notre mindset en affaires. Bref, sur le bien-être aussi. Des gens quand même assez connus qui étaient avec nous. Et tu fais les conférences dans des petites salles à l'extérieur. Et là, tu fais ta conférence, puis tu regardes les gens, puis là, plus personne te regarde, plus tu te demandes qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Et tous les gens regardent à leur droite, parce qu'à leur droite, derrière la personne qui est en train de faire l'intervention, il y a 4 dromadaires qui sont en train de passer. Il y a 4 dromadaires qui sont en train de passer. Et là, tu dis, ah, c'est ça le désert. On donne des ateliers, on donne des conférences dans le désert, mais à chaque fois qu'il y a des dromadaires qui passent, on se fait voler la vedette. Et ce qui est totalement exceptionnel, c'est que si, quand tu rentres un petit peu dans cet environnement-là, c'est les gens qui travaillent sur place. Parce que là, bien entendu, tu auras compris, Joe, 80 personnes dans le désert, ça se planifie, ça se prépare. Tu as besoin d'une certaine organisation. Et c'est des gens qui vivent dans le désert qui s'occupent de tout ça. C'est des gens qui vivent dans le désert et j'avais des discussions avec eux et je leur posais des questions. Est-ce que vous vivez ici? Comment vous venez ici? Puis la personne, elle me dit, ben ouais, on vient souvent ici. Je dis, parfait, comment vous venez ici? Parce que c'est dans le désert du Sahara. Ça nous a pris 7 heures en voiture depuis l'aéroport de Ouarzazate au Maroc pour y arriver. C'est difficile s'y rendre. Et il me dit, ben moi, ça me prend 4 jours de venir ici. Je dis, 4 jours? Nous autres, ça nous a pris 7 heures. Il dit, ouais, 4 jours, je viens en dromadaire. Mais tu vois, je me prenais des réponses comme ça à chaque fois qui littéralement me... Et là, tranquillement, en discutant avec d'autres gens qui nous ont amenés sur place, c'est là que tu comprends, c'est pas juste une autre culture, c'est une autre manière de vivre. Les gens là-bas vivent au rythme des saisons, c'est-à-dire l'été quand il fait trop chaud, les gens ne travaillent pas. Et nous, on travaille toute l'année, trop vite. Et là, on s'en va dans le désert pour retourner au rythme des saisons. Et tu vois, il y a toutes ces analogies-là qui se mettent en place quand tu discutes avec des gens sur place, quand tu discutes avec des gens qui ont une vision du monde différente parce qu'ils sont pas exposés aux mêmes choses que toi. Et tout ça, tu as ces informations-là au milieu de dunes, dans le désert, au milieu de petites tentes, en discutant business avec quelqu'un, en discutant personnel avec quelqu'un d'autre, en discutant de sport avec une autre personne. Et là, tu fais des marches le matin, t'as des paysages à couper le souffle, t'as des couchers de soleil où est-ce que le soleil est rouge. J'ai jamais vu un soleil rouge dans ma vie, mais en Afrique, c'est quelque chose de connu et là, tu le vois. Et t'as des exercices de sport, des gens qui étaient sur place pour nous donner des réveils musculaires. Tout ça mis ensemble t'amène dans un endroit que c'est très, très rare. Atteindre cet endroit de conscience-là, je dirais. Et moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Au-delà des bons échanges que j'ai eu avec les gens, ça a été vraiment cette fameuse détox digitale de laisser les emails, les Slack, les rencontres de côté et de me concentrer dans l'instant présent. Tu vois, ça paraît très cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'au final, tu te retrouves au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand-chose d'autre à penser que l'instant présent, là.
Moi, j'ai une question pour toi, Antoine. Ça m'est arrivé souvent de voyager en format pack-sack. On découvre plein de choses qu'on pensait pas découvrir ou des cultures ou des mœurs différentes. Mais à chaque fois que je reviens, il y a tout le temps une, deux ou trois choses dans ma vie régulière que je fais « Ah, mon Dieu, je suis content de retrouver ça » puis que je prenais ça pour acquis. Là, après avoir passé autant de temps dans le désert, là, ça a été quoi tes premiers aha moments quand t'es revenu de te dire « Ah, ben une douche d'eau chaude, mon Dieu! » Ben, c'est impressionnant. Ça a été quoi tes moments?
C'est sûr que ça serait la première réponse qui me viendra en tête. Une douche, parce qu'on n'a pas de douche. On se lave avec des lingettes. Mais bon, il y avait des douches. Ils ont marché 30 minutes pendant la semaine. J'ai été capable de saisir l'opportunité en bon entrepreneur que je suis pour prendre ma douche pendant qu'il y avait de l'eau qui fonctionnait pendant 30 minutes. Mais la plupart du temps, tu demandes aux gens là-bas, l'eau ne fonctionnait jamais. Donc, effectivement, retourner dans une vie, on pourrait dire, occidentale et prendre des douches, c'est une bonne chose. C'est mieux que de se laver avec des lingettes, clairement. Difficile à dire, parce que vraiment, moi, ça m'a marqué, puis j'avais envie de rester plus longtemps. En toute honnêteté, là, j'avais envie de rester plus longtemps. J'étais déçu quand venait le temps de dire au revoir, de faire les valises et de partir. Je serais resté plus longtemps, d'où l'idée où est-ce que j'étais déjà en train de planifier ma prochaine retraite.
Puis Pourquoi t'étais déçu, Antoine? Pourquoi t'étais déçu de partir? Qu'est-ce que tu voulais ne pas quitter là-bas?
J'ai l'impression que j'étais en train de commencer à goûter ce que je m'étais empêché de goûter pendant tellement longtemps. On a déjà eu une discussion, tu te rappelles, sur le podcast, Joe, est-ce qu'on parlait de vacances? Ou est-ce que moi, j'avais pas eu cette maturité-là de bien planifier mes vacances? J'étais dans mes projets, j'avançais, je me posais pas trop de questions. J'ai eu des discussions avec toi, j'ai eu des discussions avec d'autres personnes où est-ce qu'ils m'expliquaient un petit peu leur vision au niveau des vacances et j'étais entièrement en accord. Et là, est-ce que c'était des vacances? C'est argumentable, mais je veux dire, en termes de décrocher, tu pouvais pas avoir plus proche de vacances que ça. Je commençais vraiment à sentir l'impact que ça avait. Puis ça a eu un très, très bel impact pendant 2-3 jours, mais j'aurais peut-être pas dit non à une semaine de plus. Rajoute-moi une douche d'eau chaude par-ci, par-là. Là, je serais resté un petit peu plus longtemps dans le désert, clairement, parce qu'on était très bien accueillis, on mangeait bien. C'était exceptionnel dans la manière que c'était construit. C'était quand même du luxe, soyons honnêtes. Là, pour le désert, c'était du luxe. On avait énormément de gens qui cuisinaient pour nous. Et en même temps, je me mets à la place de Kim qui organisait tout ça. T'as pas vraiment le choix quand t'as 80 personnes. Il faut que ça soit bien organisé. Quand t'es 7-8 dans une évasion, on peut peut-être y aller un petit peu plus à la dure. Mais à 80 personnes, il doit y avoir une certaine planification. Donc, en toute honnêteté, j'avais hâte de revoir ma famille, ma copine, discuter avec les gens que j'apprécie beaucoup. Mais en tant qu'expérience de vivre l'instant présent, j'aurais pas dit non à quelques journées de plus. Et tu vas voir, quand je vais t'amener dans le désert, tu risques de dire la même chose à la fin.
j'en suis convaincu, honnêtement, que ça doit être assez... ça doit tellement nous sortir de notre habitude puis de nos patterns réguliers. Là, honnêtement, bien hâte d'essayer ça. Il y a un de mes amis qui m'a introduit un concept très simpliste, là, mais que je veux partager peut-être avec toi, avec d'autres personnes. C'est, je vais donner un exemple. En fin de semaine, j'étais en motoneige puis on s'est ramassé dans une petite ville qui s'appelle Maniwaki, proche de Mont-Laurier. Puis on est à l'auberge, on s'en va manger au restaurant, puis tu sais, le premier réflexe normalement, c'est d'amener son cellulaire avec soi. Puis ce qu'on a commencé à faire, c'est à se challenger entre amis, dire non, on a-tu vraiment besoin de notre cellulaire ce soir? On va s'arranger à la bonne franquette comme c'était il y a 10, 15, 20 ans. Fait qu'on a commencé à passer des soirées ou passer une partie de la journée sans nos cellulaires. Et le bout plaisant là-dedans, là, c'est juste impressionnant de voir à combien de reprises dans la soirée, dire « Ah, je vais sortir mon cellulaire pour regarder telle information, pour regarder telle chose sur la map, pour regarder tel élément. » Et là, tu te rends compte littéralement que tu es accro aux 20 à 30 minutes. Il y a tellement de choses que tu fais. Puis Mais à force de le faire, tu finis par faire comme « Ah, j'ai pas mon cellulaire, je peux pas regarder, je vais rester focus avec ma concentration dans le groupe présentement. » Et ça change complètement la dynamique mentale et la dynamique de groupe, juste de faire cet petit exercice-là. Puis on a commencé à le faire plus régulièrement. Puis en fin de semaine passée, je l'ai fait. Puis ça, honnêtement, personnellement, là, ça me fait tellement bien de laisser le cellulaire dans la chambre d'hôtel, tu pars pour la soirée. Puis toutes les fois que je me dis « Ah, là, j'aurais pris mon cellulaire », je fais comme « Ah, je suis content, je l'ai pas avec moi, je peux rester focus puis rester dans le groupe puis garder mon attention là. » Puis honnêtement, ça me fait un très grand bien. Puis je le partage parce que peut-être d'autres gens qui vont l'essayer ou qui le font. Mais c'est un peu ce que tu as vécu, mais sur les stéroïdes pendant...
C'est peut-être là le take-away, pardonnez-moi l'anglicisme, qui est bon de partager avec l'audience aujourd'hui, c'est que pour faire une détox digitale, tu n'es pas obligé d'aller dans le désert. Là, okay? Ça peut se faire à petite dose. Et je trouve que c'est un excellent exemple que tu as donné de dire, on laisse le téléphone de côté, des trucs tellement simple, mais moi, mes emails sur mon téléphone, ils ne sont pas sur mon téléphone depuis 5 ans. Donc, je ne peux pas prendre mes emails sur mon téléphone. Donc, c'est juste des petits trucs comme ça qui, je trouve, nous gardent une certaine barrière entre notre monde de travail qui n'arrête jamais et ultimement notre vie personnelle. Et j'invite tous les gens à le faire, que ce soit des petites actions, comme tu l'as mentionné, ou à prendre des actions qui ont besoin d'un petit peu plus de planification, comme des retraites dans le désert ou peu importe où est-ce que ça peut être. Ça fait du bien, ça te sort de ta zone de confort et tu reviens énergisé. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, quand tu es dans le désert, ben, tu vas y penser à tes affaires, là, tu vas y penser à tes business aussi. Tu vas avoir des idées un petit peu plus claires. Et moi, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, si vous voulez aller voir et discuter un petit peu avec Kim, je mettrai un lien vers son site internet et également son profil LinkedIn dans les notes. Peut-être que ça peut vous intéresser d'en savoir un petit peu plus, mais c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'importe qui se doit de tester au moins une fois dans sa vie parce que c'est, comme il dit, le désert absorbe tout. Et c'est vrai, tu ressors de là et clairement, là, tu sens que... les mauvaises idées ou plutôt peut-être les mauvaises pensées sont restées dans le désert et toi, t'es revenu vraiment énergisé.
Un élément que tu parles, Antoine, que j'aimerais discuter, puis je serais curieux de voir comment tu fonctionnes, mais tu dis que tu n'as pas tes courriels sur ton téléphone. Je serais curieux de voir c'est quoi ton... comment tu fonctionnes par rapport à ton téléphone mobile, puis je t'explique pourquoi je te pose la question. J'ai décidé il y a, je dirais, à peu près 6 ans de fermer entièrement toutes mes sonneries, toutes mes alertes sur mon téléphone. Je n'ai aucune sonnerie sur mon téléphone, aucune vibration. J'ai décidé que ça serait pas le téléphone qui viendrait déranger ma journée, mais moi qui déciderais quand dans la journée je vais aller voir mes messages, que je vais aller voir mes courriels. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « t'es fou de faire ça ». Je dis « ben s'il y a de quoi, vous savez où me trouver ». Tu sais. Puis on a un moyen rapide qu'on utilise à l'interne dans l'entreprise qui est un channel séparé dans WhatsApp. S'il y a des urgences, entre chaque meeting, je les regarde. Mais de mon côté, zéro sonnerie, zéro système de vibration. J'ai désactivé tous les systèmes de messagerie là, comme Messenger qui ouvre des bulles un peu partout, qui c'est le bordel. Il reste juste WhatsApp qui est notre système interne. Je serais curieux de voir ton côté, Antoine. Tu me dis « t'as pas de courriel sur ton téléphone, mais comment tu t'organises autour de ça? Est-ce que tu as les sonneries ouvertes, vibrations? Comment tu fonctionnes?
Ben, c'est une bonne question, puis c'est très intéressant ce que tu viens de mentionner parce que je pense que l'approche est similaire ou du moins l'objectif est similaire qu'on veut atteindre ici. C'est de ne pas se faire contrôler notre journée par des événements externes. Bien entendu, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler, puis il faut regarder ce qu'on fait. Mais moi, c'est pas compliqué. Puis je pense qu'on a même fait une petite discussion ensemble à un certain point là-dessus de comment on regardait nos courriels, comment qu'on regardait nos emails. Moi, je regarde pas mes emails sur mon téléphone. C'est l'endroit où est-ce que je casse le tout. Je les regarde le matin, le midi, le soir. Après, s'il y a un enjeu particulier pendant la journée que je sais que je dois recevoir un email à un certain moment, je vais peut-être le regarder à un autre moment, mais j'essaie vraiment de segmenter ça matin, midi, soir. Et ça m'aide, ça me donne un bien fou parce que quand je regardais mes emails sur mon téléphone et que je regardais toutes ces urgences-là, j'ai l'impression que j'étais tout le temps réactif au lieu d'être proactif, un petit peu comme tu l'as mentionné. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon en affaires d'être réactif au lieu d'être proactif. Donc, c'est une petite approche que j'ai mis dans ma structure quotidienne de gestion qui me donne un bien fou.
Je partage ton opinion là-dessus de ne pas laisser le téléphone décider quand est-ce qu'on doit se faire déranger, mais plutôt l'inverse. Par contre, ce que je me rends compte, moi, de mon côté, c'est vu que le téléphone m'avise pas quand il y a quelque chose, je suis rendu dans une loupe que je regarde trop fréquemment s'il y a des nouveaux messages ou des nouvelles alertes que je dois regarder qui n'ont pas eu de son ou de vibration. Là. Fait que de là, me fait un grand bien de laisser le téléphone en quelque part un soir puis de volontairement ne pas l'avoir dans mes poches, qui fait que quand ce réflexe-là arrive, je fais comme « OK, je suis pas obligé, je peux même pas le sortir, le téléphone, je l'ai pas, puis ça se termine là. »
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas vos emails sur votre téléphone cellulaire. Là. Vous n'allez pas mourir s'il n'y a pas de vibration sur votre téléphone cellulaire. Testez-le, regardez les impacts. Si c'est vraiment négatif, peut-être retravaillez un peu l'approche, mais testez-le. Je suis pas mal certain que les résultats vont être beaucoup plus intéressants que les inconvénients.
Effectivement.
Souvent, Jonathan, tu termines les podcasts avec quelques nouvelles, quelques idées. Est-ce que quelque chose, pendant que j'étais complètement à l'autre bout du monde, avec accès à aucune nouvelle qui a marqué ton imaginaire, qui
Absolument.
Pourrait intéresser notre audience?
Absolument. Ben, rapidement, Elon Musk est redevenu hier l'homme le plus riche du monde. Donc, contre toute attente, avec la quantité d'actions qu'il a liquidé de Tesla et ses aventures avec Twitter, j'ai vu la nouvelle passer hier et il a passé devant, je pense le nom, Bernard Arnault, si je me trompe.
Exact.
Qui était l'homme le plus riche avec. Exactement. Donc, de retour numéro un. Deuxième nouvelle, TikTok a été banni pour tous les employés de la fonction publique. Donc, ça, c'est assez impressionnant. La suite va être intéressante à voir si le Québec va suivre, parce que c'est la fonction publique canadienne, je pense, que ça a été fait. Et troisième élément qui pourra probablement faire l'objet d'un futur podcast ensemble, j'ai suivi ta recommandation, Antoine, que tu m'avais donnée à Phoenix, de lire le livre « Life Force ». Extrêmement impressionnant. Là, je suis rendu à la moitié. Puis pour ceux qui nous écoutent, c'est un très gros livre en format audio. C'est 22 heures. Donc, je suis rendu à 11 heures environ de fait. Et honnêtement, Antoine, je ne fais que penser à ça depuis le début de ma lecture vendredi. Et honnêtement, si vous connaissez pas ce livre-là, allez jeter un petit coup d'œil. J'étais pas un grand fan d'initialement la personne qui l'a écrit, qui est Tony Robbins. Il y en a qui sont des très grands fans de lui, mais je l'étais un petit peu moins. Mais vraiment impressionnant. Le contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est un condensé hallucinant des avancées au niveau médecine, traitement, vieillissement.
Et longévité. Si vous voulez vivre jusqu'à 200 ans, là, ouais, c'est le temps de prendre des bonnes habitudes, là.
C'est vraiment impressionnant. Donc, on pourra peut-être en reparler dans un autre podcast, mais à quel point que ça m'impacte présentement, là, j'ai eu la chance d'être en présence de personnes âgées dans les dernières 24 heures. Puis là, je regarde la vieillesse totalement d'un autre angle. C'est bizarre à dire, mais c'est une maladie, la vieillesse, là, en réalité.
Ça commence à être accepté. Ça commence à être accepté d'être vu comme une maladie, c'est-à-dire, puis tu vois, c'est tellement intéressant, Joe, que t'amènes tout ça pour notre podcast aujourd'hui, parce que bon, le livre a été écrit par Tony Robbins, certes, mais en partenariat avec Peter Diamandis également, puis d'autres docteurs dont David Sinclair, il est également sur le livre. Et avant, quand un scientifique disait que la vieillesse est une maladie, que on ne peut pas inverser la vieillesse. Les médecins se faisaient regarder avec des gros yeux, leur dire « vous êtes des conspirationnistes, vous dites n'importe quoi, vous faites honte aux médecins en parlant de cette façon-là ». Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, la narrative a totalement changé. Et d'ailleurs, j'écoutais un excellent podcast ce matin, encore une fois de notre ami Peter Diamandis, en compagnie du docteur Mark Hyman. Juste pour vous donner une idée, là, podcast fantastique. Je vous invite à l'écouter si vous êtes intéressé par la longévité, la santé, bien manger, peut-être vivre jusqu'à 150 ans, 200 ans, tu vas voir, ça va être de moins en moins fou de mentionner ces âges-là, mais pourquoi ne pas y penser? Pourquoi ne pas y penser? Et Dr. Mark Hyman, il a 63 ans. Mais allez voir la photo, allez voir une photo de Mark Hyman, vous allez vous dire, est-ce qu'il a vraiment 63 ans? OK? Puis, je pense que vous comprenez un petit peu quel type de réponse qui va survenir au moment où vous allez regarder la photo. Donc, il a 63 ans sur papier. Il est né en 1959. Il a fait des tests. Et son réel âge, au moment où on se parle, est de 43 ans. OK? Et on pourrait penser, parce qu'il y en a eu des articles qui sont sortis là-dessus, que pour rajeunir, tu as besoin de manger d'une certaine manière. Tu dois prendre 45 suppléments différents par jour. Tu dois dormir des heures excessivement rigoureuses dans ton sommeil. Ça doit être fait de la bonne... Bref, des choses que tu n'as pas envie de vivre en tant qu'être humain. Dr. Mark Hyman, il vient de sortir d'ailleurs un livre qui pourrait peut-être être un complément à ce que tu es en train de lire avec Life Force. Donc, ton prochain livre, Joe, sur la santé pourrait être Young Forever de Dr. Mark Hyman. Moi, je l'ai déjà commenté, c'est ma prochaine lecture. Et c'est relié, bon, le titre est assez évocateur, vous aurez compris, de vivre longtemps et jeune, parce que c'est l'idée aussi. On veut pas vivre, ou du moins, ça, c'est la narrative qu'on se fait amener de plus en plus en écoutant ces personnes-là et en s'intéressant sur le sujet. L'objectif n'est pas de simplement vivre jusqu'à 150 ans et de ne plus être capable de marcher. L'objectif est de vivre vieux et en santé. Et en santé. D'où l'idée de dire que si une personne aujourd'hui, son vrai âge est de 43 ans, quand cette personne-là a 63 ans, on est capable de comprendre que les possibilités de vivre longtemps sont assez importante. Et bref, les deux discutaient ensemble dans le podcast et Mark Hyman disait essentiellement, écoute, moi je mange bien, je mange des bonnes protéines, je limite considérablement ma quantité de sucre, mais essentiellement, il y a trois choses. Bien dormir, bien manger, faire de l'exercice. Et une des choses que j'ai appris, que je trouvais totalement fascinant, c'est qu'en vieillissant, une des choses les plus importantes pour assurer notre longévité est la construction de muscles. Et le podcast ce matin entre Peter Diamandis et Dr. Mark Hyman traitait littéralement de ça. C'est que souvent, à travers le temps, quand on vieillit, c'est beaucoup plus difficile de bâtir des muscles quand on est plus jeune. Donc, d'où l'idée de bâtir des muscles le plus jeune possible. Parce que ça va être vraiment une façon de pouvoir se protéger d'une vieillesse qui pourrait, à un certain point, être beaucoup plus complexe. Parce qu'on le sait, c'est plus facile quand t'es vieux de te fracturer des os, d'avoir des problèmes musculaires parce que t'as moins de force. Bref, un podcast fantastique. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Mais je suis content, Joe, que t'aies lu ou du moins que t'as commencé Life Force, parce que quand tu rentres là-dedans, là, l'enjeu, c'est que tu rentres trop là-dedans. Là.
Impressionnant. Après ça, il faut mettre les choses en action aussi qu'à l'intérieur, malgré que la majorité des concepts de base, c'est les bonnes habitudes de vie, comme tu mentionnais, réduire également la consommation d'alcool au minimum ou d'arrêter complètement. Mais vraiment impressionnant. Merci, Antoine, pour cette introduction-là, ce livre-là. Je te confirme que Young Forever, à l'instant qu'on se parle, est acheté via Amazon dans mon Audible. Donc, dans deux semaines, je m'en vais en motoneige pendant quelques jours. C'est certain que je vais avoir le temps de passer à travers. Et ça serait intéressant peut-être de partager nos notes de chacun de ces deux livres-là. Qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en application? Qu'est-ce qui est facile à mettre en application? Qu'est-ce qui l'est moins? Mm-hmm. On parlait entre autres de Fountain Life. Ça pourrait être un bon Bien sujet sûr. À discuter. Je suis très curieux d'en savoir plus et d'aller plus loin devant nous. Puis je pense que c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde, de vouloir être au maximum de sa capacité de vivre longtemps, mais en santé surtout et en forme. Parce qu'il y avait une belle phrase qui disait dans le livre Life Force, c'est que tout le monde veut vivre vieux, mais personne ne veut être vieux. Exact. C'est complètement deux opposants en réalité. Fait que dans le fond, c'est bien beau vivre longtemps, mais il faut avoir une belle qualité de vie. Là. C'est ben, tout exact. Ça qui est le plus important. Là.
Et c'est l'essence du livre. C'est l'essence du livre, c'est-à-dire de mettre des choses en place aujourd'hui qui peuvent nous permettre à 70, 80, 90 ans d'avoir le corps, le mental d'une personne de 50, 60 ans. Et soyons honnêtes, ça peut paraître utopique aujourd'hui de penser ça, sauf que simplement voir les avancements technologiques et au niveau de la santé qu'il y a eu dans les dernières années, personne, il y a deux ans de ça, aurait pu prédire à quel point ChatGPT est en train de changer considérablement l'environnement du travail, même si les gens en parlaient, on savait pas à quelle vitesse. Personne, il y a plusieurs années, aurait pu accepter dans le milieu de la médecine que l'âge peut être inversé. Donc, si ces choses-là continuent de nous épater, de nous impressionner à la vitesse qu'ils arrivent, qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Et souvent, ces choses-là, ce n'est pas une courbe linéaire, mais davantage une courbe exponentielle. Donc, l'idée, c'est de se dire, si c'est démocratisé de plus en plus, imaginez à quelle vitesse que ça va aller dans les 5-10 prochaines années. Et peut-être, si on se quitte là-dessus sur Life Force, et moi, c'est te parler d'une phrase qui a capté ton attention, moi, c'est une autre phrase qui a vraiment capté mon attention, qui, à mon avis, est peut-être le sous-titre même du livre. « Being the CEO of your own health ». Parce que trop souvent, on laisse plein de gens nous dire comment notre santé est, mais au final, comprendre notre corps, comprendre ce qui se déroule dans notre corps, comprendre ce qui est bon de mettre dans notre corps en termes de nourriture, de supplémentation, le sommeil qu'on a, l'activité physique qu'on doit faire, c'est des choses qu'on doit être responsable. Donc, Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.